Théodore de Banville, Le malade guéri, 1885. Oui, mon ami, dit Garetta, serrant dans ses bras la pujade à l'étouffée, c'est pour toi seul que j'ai tout vendu là-bas et que je me fixe à Paris. J'y viens pour savourer ton triomphe, pour jouir de ta gloire, pour en ramasser les miettes. Car à Cistero, où nous avons été élevés ensemble, n'étions-nous pas les deux frères ? Eh bien, dit la pujade, assieds-toi. Je vais envoyer chercher quelques côtelettes, car mon déjeuner à moi te semblerait insuffisant, je ne mange que des légumes. Ainsi, reprit Garetta avec enthousiasme, tu es le ténor, le dompteur, l'enchanteur des âmes, le roi de Paris. Qui m'eût dit cela lorsque nous étions au collège communal ? Chaque fois que tu fais sortir ton hut de poitrine, on te le paye au prix du diamant, et lutte dièse, comme s'il était une étoile. Te voilà logé dans un palais, et les tapis sur lesquels tu marches pourraient servir à habiller les princesses. Moi, j'ai vu que tu as été décoré de 5 ou 6 ordres, et quand tu vas à Asnières, on te met dans les journaux. Mais tout cela n'est encore rien. Ce qui m'enivre la plus jeune, ce qui me monte la tête, c'est ce troupeau de femmes séduites, enamourées, quittées, abandonnées, déchevelées, que tu traînes après toi comme Don Juan. Oh, toutes ces grandes dames fuyant pour toi leur mari, ces jeunes filles escaladant le mur de leur passion avec des échelles de cordes, ces princesses d'Orient venant du bout du monde t'apporter comme un Salomon des vases pleins de pierres précieuses. À la bonne heure, voilà qui vaut la peine de vivre. Tu es bien bon, dit la pujade. Aussi, fit Garetta, tu es célèbre comme Agamemnon. 1003, oh, ce nombre-là doit te faire sourire, toi qui comptes tes amendes par milliers. Bon, j'ai tout lu, je connais par A plus B, je sais sur le bout du doigt l'histoire de tes bonnes fortunes. Ben, c'est égal, je veux que tu me la racontes toi-même. Fume-moi ce cigare que m'a vendu un contrebandier espagnol. Je pense que ces feuilles sont capables de jouer assez bien leur scène dans la série des blondes. Merci, dit la plus jeune, je ne fume pas. Et une larme aussitôt réprimée se montra au bord de sa paupière. Eh bien, qu'est-ce ? Fit tendrement Garetta. Tu pleures ? Écoute, dit le ténor, voilà 15 ans que j'étouffe, faute de trouver un cœur ami où épancher le mien. Bon, il est temps que je parle. Écoute-moi tranquillement, comme dans les tragédies. Ne t'étonne pas, quand même je te raconterai un songe, et au fait, oh, je vais t'en raconter un, qui contient toutes les horreurs. C'est ma vie. Oui, Garetta. Les femmes de tous les pays, les princesses, les duchesses, les simples femmes riches et toutes les autres m'admirent et m'adorent en maillot rouge, en maillot gris clair, en armure de guerrier, en habit de roi. J'ai vu agenouiller devant moi des figures divines. J'ai vu éparpiller sur ma chaussure l'or et la sombre nuit des plus belles chevelures. On m'enlève dans les rues noires en me mettant des bandeaux sur les yeux. Et on me conduit dans des palais, dans des chambres tendues de soie rose, où m'attend une grande dame humble, soumise, ardente, et où les plafonds sont faits de miroirs, afin que l'image du ténor s'y reproduise à l'infini. Oh, je suis attendu avec de petits festins de friandises, dont un seul coûte le revenu d'une ferme en Beauce, et avec les lettres d'amour que je reçois, on pourrait tendre dans la maison de ton père toutes les murailles et tous les galandages, et habiller encore tous les mûriers de votre jardin. 1000 millions de cigales, dit Garetta, tu as donc l'appétit d'un tigre pour dévorer tout ça. Hélas, dit tristement la plus jeune, voilà justement où je voulais en venir. Je ne dévore rien du tout. Je vis plus chaste qu'une nonne prisonnière dans un impasse. Plus chaste qu'une statue de victoire sur sa colonne, et qu'un soldat de Napoléon à la Bérésina. Oui, lorsque je me trouve seul avec la dame qui a bravé 1000 dangers ou 1000 ennuis pour m'entendre lui parler d'amour, je ne lui en parle pas. Et c'est alors que je dois me tirer d'affaire pour d'humbles aveux ou à la rigueur par des mots d'esprit. Oh, tu me demanderas comment il se fait qu'après tant de temps écoulés, on ne sait pas encore à quoi s'en tenir sur mon compte. Eh bien, c'est mon ami, parce que mes Ariane, déçues, aiment mieux faire semblant de se lécher les babines que d'avouer leurs déconvenues. Et elles feignent d'être contentes de moi, pour n'en pas dégoûter les autres. Et ainsi, mon ami, je vis sur un mensonge. Il n'y a jamais eu de secret aussi bien gardé que le mien, et j'ai 10 000 complices. Oh, pauvre que tu es, dit Galetta attendri, mais qui a pu te mettre dans un état si lamentable? Sans doute des excès précoces. Mais, dit la plus jeune, mes seuls excès ont consisté en des abus de gamme et de vocalise. Mais je suis d'ailleurs robuste comme un chêne. Je pourrais, si je voulais, tromper tous les athlètes et recommencer l'exploit d'Hercule. Car si je rencontrais un roi qui eut 100 filles et qui leur permit de me témoigner de la sympathie, il me faudrait pas plus d'une nuit pour le rendre 100 fois grand-père. Mais il n'y aurait plus de ténor. Un ténor, mon ami, se compose surtout de ce qu'il ne fait pas. Je ne fume pas, je ne mange pas, je ne bois pas de vin. Je me nourris d'épinards au sucre et de soupe aux herbes. Et les soirs où je ne chante pas au théâtre, je me couche à 7 heures. Je dois éviter toute émotion. Aussi je ne me permets pas la lecture du Berquin, auteur trop violent et excessif pour mon hygiène. Et quand j'ai envie de m'amuser, je lis l'annuaire du bâtiment ou le parfait notaire. Et encore, ne dois-je pas les savourer avec trop de passion? Mais, dit Garetta, mais c'est l'enfer! Oui, reprit la Pujada, un enfer où on gèle. Je demeure littéralement dans du coton, ou plutôt dans de l'ouate, comme un joyau, et je ne me permets pas de respirer une rose sans avoir auparavant atténué son parfum par un procédé chimique. Nul objet ne me touche ou ne m'approche sans que sa température ait été vérifiée à l'aide d'un thermomètre. Car, mon cher Léon, une voix de ténor est une maladie des cordes vocales. Abandonnée à elle-même, la nature et l'effort du tempérament triompheraient vite. C'est pourquoi je dois l'entretenir avec force luxe, juleps, médicaments de tout genre, et avec le concours empressé de 3 médecins. Et non seulement ils doivent entretenir ma maladie du larynx, mais comme je suis, de même que tous les ténors, taillé en force et pourvu d'un coffre solide, c'est grâce à leurs artifices que, sans me serrer, chose incompatible avec ma profession, j'arrive à paraître agile et mince, comme il sied à l'être adoré. Jujube, lichen, pâte pectorale, tel est mon régal ordinaire. Je bois plus d'infusion de guimauve que Bassompierre ne buvait de vin dans sa grande botte à entonnoir. Mais tu crois que c'est tout? Mais tu sais rien encore. Le public se pâme quand je chante. Ce sont des fureurs, des applaudissements, des rappels, des bouquets jetés, comme pour Adeline Apathy ou Christine Nilsson. Eh bien, mon cher, je ne connais pas une note de musique, et je ne sais pas plus chanter que l'ours dans les cavernes. C'est ce brigand de Savinia, l'accompagnateur du théâtre, obstiné comme une mule et jamais impatienté, qui me fourre tout cela comme la béquée à un serin. Ainsi, tu le vois, tous mes instants sont remplis par la pharmacie et le piano. Quant aux femmes, je les fuis comme la peste. Pourtant, dit Garetta, il y en a une que tu ne fuiras pas, car j'ai promis de te l'amener dîner avec elle. Mais celle-là n'est pas à craindre. Un pauvre être rubitarien, tordu comme un cep de vigne, dont la peau brûle comme une braise et qui gèle toujours. Mais tu te la rappelles bien, Pulquéri, la petite Pulquéri Mordeille, qui demeurait à Aubignosque. Il y avait un vieil olivier roué, tout difforme, devant la maison de son père. Elle l'aimait quand nous étions petits, et par jalousie, elle avait à moitié étranglé sa cousine Rose. Et elle t'aimait encore quand nous sommes sortis du collège. Et Dieu me pardonne, je crois qu'elle t'aime toujours. Oh, tu sais, elle est très riche. Elle a épousé le minotier Lusignol, et puis elle est devenue veuve. Oh. Il y a 3 mois, elle a vendu son bien. Elle est venue demeurer à Paris, où elle a acheté un joli hôtel dans la rue de Boulogne. Eh bien, je crois que si elle s'est expatriée, c'est comme moi, pour te revoir. Oh non, pas de femme, dit la plus jeune. Entre nous, mon hutte m'inquiète. Je crois qu'il a quelque chose. Qu'est-ce donc, Figaretta? Est-ce qu'il ne sort plus quand tu veux? Mais au contraire, dit la plus jeune, il ne demande qu'à sortir. Il est superbe, mais il est aussi comme attristé. On dirait qu'il s'ennuie. Oh bien, il ne m'en manquerait plus qu'une femme dans l'affaire. Mais, dit Garetta, je te le répète, Pulquéri se meurt de la fièvre. Et elle est si mignonne, si amoindrie qu'elle tiendrait dans un nid de colombe. Allez, elle t'attend demain avec moi. Tu refuseras pas à ta petite amie de toujours le plaisir de te retrouver pendant 1 heure. La plus jeune se fit beaucoup prier. Il céda enfin, après avoir fait 1000 restrictions, et après avoir donné le menu de son dîner, qui, à ce que lui promit Garetta, serait ponctuellement exécuté. Le lendemain, à 7 heures et demie précises, les deux amis firent leur entrée dans un petit salon tendu de soie blanche, où, sous les pieds, un très épais tapis blanc, semé seulement de quelques minces fleurettes, ressemblait à de la neige. Dans un énorme fauteuil carré en damas rose sèche, le ténor vit quelque chose, un long et tout petit paquet enseveli dans les étoffes. C'était Madame Lusignol. La tête, pareille à une olive noire, était perdue dans une mantille, et les yeux seulement brillaient comme des charbons. Ah, dit-elle, oh, je suis bien heureuse de vous voir. Et d'une toute petite voix harmonieuse et douce, qui semblait lointaine, elle se mit à parler du passé, d'Aubignosque et des jours enfuis. Mais bientôt on annonça que Madame était servie. Et une robuste femme de chambre prit dans ses bras Pulquéri et, avec 1000 précautions, la posa sur une chaise de malade devant la table où les deux amis la rejoignirent. Sur un couvert étincelant de fleurs, de faïences, d'amusantes orfèvreries, la pujade rassurée fit avec plaisir les 2 plats qu'il avait ordonnés, ses laitues cuites et ses épinards au sucre. Mais auparavant, dit Pulquéri, vous mangerez bien avec nous un peu de bouillabaisse. C'est de la bouillabaisse pour demoiselle, douce comme un agneau. L'imprudent ténor accepta. Les parfums de la patrie l'avaient saisi aux narines. Mais comment résister à ce bouillon fumant, safrané, qui sentait le citron et l'orange, et à ce grand plat où se mêlaient le Saint-Pierre, la rascasse, tous les poissons de roche et les petits homards gros comme des écrevisses. Mais l'agneau, dans cette bouillabaisse, au dire de Pulquéri, rappelait la douceur, eût pu égorger les tigres. Et toujours la petite voix de cigale enivrait le ténor. Il mangea de l'aïoli, de la brandade, une sorte de ragoût féroce, où la viande et les piments ne faisaient plus qu'une pâte de feu. Enfin, il savoura une pêche, il but du café brûlant, il avala un verre de cumel, car tout s'enchaîne. Mais il était dévoré de remords et pâle d'inquiétude. Il se disait bien, pour se rassurer, ah, heureusement que la femme n'est pas à craindre, et que d'ailleurs Garetta est avec moi. Mais de temps en temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander, mais que devient mon hut ? Le dîner terminé, Pulcheri se pencha vers Garetta. Eh bien, maintenant, va faire ma commission, lui dit-elle d'une voix mourante. Garetta obéit. Alors la femme de chambre revint, prit dans ses bras Madame Lucignol et la porta dans un boudoir où, quoi qu'on fût encore en septembre, un feu vif brillait dans la cheminée de marbre bleu et dont presque toute l'étendue était occupée par un divan d'une largeur énorme revêtu de blanche fourrure. À part ce divan, il n'y avait pas là d'autres meubles qu'une petite chaise très basse où s'assit la Pujade. Pulcheri rejeta sa mante, ses voiles, et soudain, réveillée, apparut, éclatante de charme et de grâce, couronnée d'une vaste chevelure, noire mais belle, comme la sulamite, très mince en effet, mais pas du tout maigre, il s'en fallait de tout. Elle parlait, racontant encore leurs souvenirs, lentement, musicalement. Mais pendant ce temps, le ténor se tentait à la fois brûlé et comme violemment attiré par les yeux de feu dont l'incendie pénétrait jusque dans ses veines. Enfin, vaincu, n'ayant plus la force de lutter, il s'élança vers Madame Lucignol. Il baisa ses lèvres pareilles à une grenade écarlate, se sentit serré par des bras d'une force terrible qui eussent étouffé un loup, et le ténor succomba. 15 ans de prudence, de sagesse, de renoncement étaient perdus. Libre enfin, il voulut fuir. Vain espoir. Les prunelles charmeresses, les yeux de braise noire l'avaient recloué sur sa chaise. Pulcheri parlait encore de leur enfance et du ruisseau il l'avait porté dans ses bras, et plus que jamais les yeux enflammés, les yeux l'attiraient et le brûlaient. « Eh bien, 100 000 millions de diables, se dit-il, j'ai 200 000 livres de rente. Bon, je ne serai plus ténor, voilà tout. » Et il retourna près de Pulcheri avec une sombre joie. Et en effet, il n'est plus jamais redevenu ténor. Il a radicalement perdu sa maladie de larynx et par conséquent sa voix. Il est plein d'esprit. Il chasse, il fait de l'escrime, il monte à cheval, il mange, boit et lit tout ce qu'il veut. Et il a une honorable maîtresse qui n'a plus la fièvre. Enfin, pour dépouiller entièrement le vieil homme, pour rompre avec le passé, et pour n'avoir plus rien en lui qui rappelle le ténor, il apprend la musique.